Radio Capi, grand témoin.
Bonjour, je suis Alain Irung Mouchige. Dans Grand Témoin aujourd'hui, Jean-Marc Matouaki et Blaise Chindani Kambala reçoivent Baloufou Bakoupa Kanyinda. Il est cinéaste, écrivain, professeur et directeur général du Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale. Il s'exprime sur son parcours ainsi que l'importance stratégique de ce grand centre culturel basé à Kinshasa. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Je vous invite à suivre cette première partie avec Jean-Marc Matouaki.
Grand témoin, braque ses projecteurs sur Baloufou Bakoupa Kanyinda. Bonjour Baloufou.
Bonjour.
Alors, vous êtes né un certain 30 octobre 1957 à Kinshasa.
Oui, en fait, mon histoire, ma naissance, c'est vraiment une belle histoire parce que je suis né à Kinshasa, Léopoldville à l'époque. Je suis né dans une maison. Rue Boléco numéro 2, à Rankin, qui est Matongé actuel, des parents qui habitaient Luluabourg, Kananga. En fait, je vais le dire comme ça pour des raisons de santé. Donc ma mère s'est retrouvée à Kinshasa et je suis né ici. Et donc j'ai dû être ramené à Luluabourg très vite. Je crois que j'avais 3 ou 4 mois. Et donc, je suis revenu là où habitaient mes parents, à Luluabourg. Donc, je suis né à Kinshasa.
Et c'est à Luluabourg aussi que vous avez commencé vos études?
Non, parce que je suis né 3 ans avant l'indépendance. Et vous savez qu'il y a eu la guerre fratricide entre les Balouba eux-mêmes, c'est-à-dire ce qu'on appelait les Balouba et le Loua. Et que moi j'appartiens à une très très vieille famille des Balouba, donc mon grand-père est un très grand commerçant, en même temps aussi un pasteur protestant, et tout ce monde-là a dû plier bagage pour rentrer dans ce qui est devenu aujourd'hui la province du Kasaï oriental, en passant par les Sud Kasaï et toute l'histoire de cet exode qui a été tragique entre 59 et 60. Donc, mes parents ont regagné leur territoire d'origine, parce qu'il ne s'agit pas du pays, mais des territoires d'origine. Et j'ai commencé... après, il y a eu l'indépendance. Les gens instruits ont été souvent appelés à Kinshasa. Mais mon père a toujours été un provincialiste. Et donc, j'ai commencé l'école primaire... donc à Boujimaï, et puis je suis venu continuer ici à l'Athénée de Kalina, qui est devenu l'Athénée de la Gombe. Voilà.
Et vous avez eu votre diplôme dans quel domaine?
Non, en fait, je vais juste expliquer que d'abord, donc j'ai fait une partie de mes primaires à l'Athénée, et comme mes parents bougeaient entre Kinshasa et Boujimaï, donc on est réparti à Boujimaï où j'ai fini mes primaires, et puis une partie des secondaires, je suis revenu à l'Athénée pour terminer, et je suis un cas particulier parce que je suis un littéraire qui a fait les scientifiques. J'ai dit un cas particulier parce que même mes collègues de l'Athénée, quand ils me voient aujourd'hui, ils sont toujours étonnés parce que on m'a toujours dit que j'étais un littéraire. Il faut aussi dire que j'ai été éduqué par un littéraire. Mon frère aîné, qui a un écart de 12 ans, donc qui est un brillant écrivain, prix littéraire, prix Mobutu Sese Seko, le premier prix de roman, qui est malheureusement décédé très jeune. Et c'est lui qui m'a appris la virgule et le 3 points. Donc, il n'aimait pas beaucoup le point-virgule, parce qu'il trouvait que le point-virgule, c'est comme porter un pantalon avec des bretelles et une ceinture. Donc, il fallait décider si on met le point ou on met la virgule. Mais même maintenant, quand j'utilise le point-virgule, j'ai toujours l'impression qu'il va me reprocher ça. Donc, j'ai fait le maths le scientifique, comme on disait, maths physique. Et puis, je suis allé continuer en Belgique, où j'ai fait ma préparatoire. Et en fait, la fin des secondaires, j'ai voulu aller aux études universitaires. J'étais intéressé par beaucoup de choses. Je cherchais mon chemin. Et j'ai été mis sur le chemin de la sociologie et je me suis retrouvé à Lubumbashi où j'ai été attaché au centre culturel français qui ouvrait. C'était qui ouvrait. Donc j'étais dans un bâtiment neuf avec une équipe française. Il y avait un directeur français et deux animateurs. J'étais le troisième animateur. Mais je suis arrivé à Lubumbashi, comme je parlais de sociologie, parce que j'y étais arrivé pour faire une enquête de sociologie sur la mort. Sur la mort dans le Shabbat. Et je suis arrivé à Lubumbashi dans une période assez importante. Il y avait eu la guerre de 78, de 78 à Lubumbashi, Shabbat 1. Et puis il y avait eu la guerre de 79. Et moi je suis arrivé en 79. Je suis arrivé en novembre. Et je suis arrivé dans une ville où il y avait ces poids de la guerre du Shabbat. Mais je suis arrivé aussi dans une ville, donc j'étais au centre culturel, où je m'occupais, donc le centre se mettait en place. Vous savez, un centre, c'est d'abord la bibliothèque, et puis la salle des cinémas, et moi j'étais chargé de la programmation cinéma. Je n'étais pas encore cinéaste, mais j'étais, donc ça a été d'ailleurs ma première école de cinéma. Et dans cette ville, quand je suis arrivé, ça bruissait de l'exil de Moudimbé. Moudimbé venait d'aller en exil en 79, et Pius Ngandou, il y avait d'éminents professeurs, hein, à ce moment-là, il y avait Georges Zongola, et moi, tous ces gens-là, je les ai rencontrés au centre culturel, et je les ai beaucoup rencontrés par l'entremise de quelqu'un qui finira ministre de la Culture, paix à son âme, mon ami Banzamou Kalaï Chungu.
C'est un littéraire, un grand écrivain.
Un littéraire. Et quand j'ai rencontré Banza, il était président du club littéraire de la CASAPA, de l'université. Donc il venait me voir pour organiser sa programmation. Et c'est comme ça qu'on est devenus amis. Donc je faisais sa programmation soit sur ce qu'il voulait organiser d'une façon littéraire ou pour amener les étudiants à voir des films. Il y a beaucoup de jeunes de Lubumbashi, il y en a qui sont dans des grands postes, qui sont venus très jeunes suivre des films et m'écouter, leur expliquer la narration filmée. Donc j'ai fait mes premières armes, ça fait 45 ans, 46 ans maintenant, au centre à Lubumbashi. Et donc j'arrive en novembre 1979, et donc on parle de Moudimbé que je ne connaissais pas. Mais par d'où je venais, dans une maison des littéraires, des écrivains, je savais qu'il y avait quelque chose, Moudimbé, il y avait Moudimbé Engal. Ça, les deux noms, je savais qu'ils étaient, mais j'avais jamais lu Moudimbé. Donc, et j'ai eu, donc, parce qu'on avait une bibliothèque, parce qu'on parlait des Moudimbé, j'ai commencé par le Bel Immonde. J'ai mis à peu près 15 ans pour comprendre le Bel Immonde. Et j'ai fini par avoir des droits, chez Moudimbé lui-même, des droits pour l'adapter au cinéma.
Le Bel Immonde qui est sorti en 1976.
En 1976. Donc moi j'arrivais, et donc en 79, tout le monde parlait de Moudimbé qui est parti en exil et tout. Maintenant là, littéralement, tu vois, je commence à... Et Banza qui venait me parler du campus, de Kassapa, tout ça, et Ngandou Pius, et comme j'étais au centre, tous ces gens-là venaient. Tous ces gens, j'ai connu Eliké Mbokolo parce qu'il est venu faire une émission, il est passé par les centres, et je l'ai accompagné faire des entretiens. Donc j'étais au cœur du milieu intellectuel.
On va dire que comme Obélix, vous êtes tombé dans la marmite de la culture, de la littérature, tout en étant très jeune.
Oui, mais j'ai vécu avec un écrivain qui était entouré de poètes. Et moi j'étais un curieux, donc d'ailleurs c'est mon frère, donc j'étais éduqué à lire les classiques, Zola, Hugo, et puis un jour mon frère m'a mis comme ça dans les mains le cahier du retour au pays natal de Césaire, et il m'a dit je pense que il y a la littérature africaine, tu dois t'y intéresser. Donc j'ai lu, enfin mon frère il lisait un roman, il me le passait, mais j'avais la mission devant ses camarades d'expliquer ce que j'avais lu. Donc on m'a pas appris à lire simplement, on m'a appris à critiquer et à défendre. Et c'était vraiment des écrivains de métier qui discutaient de la virgule. Et je me souviens, j'avais un enseignant, j'avais fait une dissertation. Il a dû convoquer mon frère parce qu'il pensait que c'est mon frère qui avait écrit la dissertation. J'ai publié mon premier texte sur l'éducation dans Salongo, j'avais 15 ans. Donc c'est vrai, j'ai toujours été entouré des littéraires, tant mieux, mais j'étais allé à l'école en scientifique. Et je me souviens, le maths, tout ça, ça me passait. Mais j'avais toujours l'impression que j'y arriverais. J'étais bon dans tout ce qui n'était pas maths et tout. Les autres en profitaient, ils m'aidaient aussi. J'ai un camarade, je voudrais quand même le saluer, il s'appelle Dr Mutombo Albert Tupeta. Et tous ces gens-là me poussaient. Donc, quand il s'agit de la matière non scientifique, ils s'appuyaient sur moi. Donc, c'est des très beaux moments. Donc, je reviens à ma carrière. Donc, je commence en 1979. Et pour la première fois, donc, j'ai travaillé avec le directeur du centre, Bernard Pignot, qui est décédé depuis, travaillait sur Lumumba. Et moi, je ne le savais pas. Donc, le 17 janvier 1980, il me dit, tiens, mais bon, je connaissais un peu l'histoire. Il me dit, on va faire le parcours de Lumumba. Et comme lui, il avait une position consulaire, donc il y avait aussi l'armée française qui était très présente, il a obtenu qu'on commence par Luano. Donc, mon initiation de Lumumba commençait là. L'avion a atterri ici, on les a amenés ici, on est allé à la maison Bourouet, et on a fini à Chilantembo. Au pied de cet arbre où il y avait encore des marques de balles, j'étais là avec un Français qui m'expliquait l'histoire de mon pays. Et puis j'ai pensé à Lumumba. L'Afrique écrira sa propre histoire. Et j'ai dit donc à Pignot, à Bernard, j'ai dit, c'est aujourd'hui que je vais commencer à travailler sur Lumumba. Et il m'a beaucoup encouragé. Bon, lui, il écrivait un livre qui est sorti chez l'Harmattan qui s'appelle le regard du lointain. Donc, voir l'Afrique au loin, et il m'a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de documentation, des documents, qui étaient presque même des documents confidentiels sur l'histoire, mais qui étaient l'histoire vue du côté des Français, parce qu'il recevait ces documents-là de ses contacts à Paris. Donc, j'ai commencé à travailler sur Lumumba, et Mitterrand est élu en 81, donc je suis à Lubumbashi, et toute mon équipe, on était sur un terme de 2 ans. Et l'équipe n'est pas reconduite, mais elle est ramenée en France. Elle est ramenée en France, pourquoi? Parce qu'on avait conçu un petit dossier pour un projet d'échange littéraire entre Lubumbashi, donc la Cassapa était incluse, et le Musée National, et le centre culturel dans l'Essonne, banlieue de la France, banlieue de Paris, à Marcoussis. Et c'est un petit projet culturel. Maintenant, Mitterrand est au pouvoir, Jacques Lang, ancien directeur de théâtre et ministre de la Culture.
Qui a lancé la fête de la musique.
Ouais, ouais, mais ça viendra plus tard, ça aussi, je vivais à Paris. Claude Mollard, un grand spécialiste des arts plastiques, est délégué aux arts plastiques autour de tout ça. Et le petit projet qu'on voulait faire devient un grand projet qui s'appelle Souradi. Donc on se retrouve au Louvre, au Musée des Arts Décoratifs. Donc je me retrouve au Louvre, dans cette équipe, et tout d'un coup est invité à Paris, à Beaubourg, ça se passe une partie à Beaubourg, et l'exposition se passe aux Arts Décoratifs au Louvre, où je suis à ce moment-là. C'est formidable parce que tout d'un coup je découvre le monde intellectuel, je vois pour la Ndaiwel, je vois Yoka, je vois Eli Gambokolo que je connaissais déjà, mais je rencontre plein de gens, Gall, Moudimbe, et moi je suis fasciné parce que la plupart de noms je les connaissais parce que j'étais au centre culturel, mais là il y avait un programme, ça durait plusieurs jours, à Beaubourg. Donc, et j'ai décidé à ce moment-là de ne pas rester en France, parce que je travaille sur Lumumba, de me rapprocher des sources où je peux avoir des archives. Donc je m'installe à Bruxelles. Donc je m'inscris à l'ULB en sociologie, et je continue à faire mes recherches. Et en 84, je publie et avec une exposition, Zaïre, 1885-1985, 100 ans de regard belge, qui est un travail de la sociologie du regard. Comment les Belges ont fabriqué le personnage congolais et comment ils ont fabriqué la représentation du Congolais dans leur imaginaire. Qui a un travail formidable, qui est accompagné par une exposition au Centre culturel Le Botanique, où je m'installe
à Bruxelles,
où je m'installe durant 4 mois autour de cette exposition. J'ai fait aussi des choses avec le Centre culturel d'Odergame, pièces de théâtre, et je suis à l'ULB, je suis très lié au théâtre à l'ULB, avec la Maison africaine. Voilà, donc j'ai toujours été dans ceux qui me connaissent. À la limite, j'étais un peu marginalisé parce que les Congolais, donc mes amis à Bruxelles, ils faisaient des études d'économie, de politique, et tout le monde me reprochait d'aimer les théâtres. Je pense même, on disait à ma mère, elle me disait, mais qu'est-ce que tu fais comme étude? J'ai dit, non, je fais la sociologie, enfin, elle ne comprenait pas, elle me disait, mais on dit que tu fais du théâtre. J'ai dit, oui, j'aime les théâtres. Et une de mes tantes me disait, mais est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un en Europe pour faire du théâtre? On n'étudie pas les théâtres. Enfin, j'étudiais pas le théâtre, mais c'était la perception qu'il y avait ici. Donc, l'espace s'est réduisait en Belgique. Je voulais aller plus loin. Je voulais maintenant. J'avais un background. J'ai quitté l'ULB. J'étais en troisième année parce que mon intérêt c'était pas d'aller faire autre chose que le cinéma. Donc j'avais considéré. J'avais fait beaucoup de. J'avais travaillé avec Ter Vuren. J'avais organisé des expos pour, par exemple, la communauté afro-américaine de l'OTAN qui vit dans à Shape. On appelle ça les Shape, vers Mons. J'avais une visibilité, j'avais publié dans les revues de poésie, et la Belgique devenait trop petite pour moi. Donc je suis allé en France en 86, et j'ai fait un an de droit à Amiens. Il y avait des choses que je voulais comprendre, je m'étais tracé une voie, et après j'ai fait ma première classe d'audiovisuel à l'Arsico, qui est une école privée à Paris, où j'ai fait ma première classe de photographie. Avant de faire aussi ma première classe de réalisateur. Donc, 89. D'ailleurs, j'ai commencé à faire mon premier film documentaire autour du bicentenaire de la France en 89, qui s'appelle Le Tableau Noir, qui est resté inachevé, mais les restes sont là. Et après, je suis allé à Londres. Je suis allé à Londres, d'abord par une rencontre d'un ami ghanéen, cinéaste, l'un des plus brillants documentaristes de ma génération. Il s'appelle John Akonfra, qui est pour moi presque un frère. Et je suis allé, et ça m'a étonné parce que quand je suis arrivé à Londres, mon monde a changé. Je venais d'un monde francophone où j'avais l'impression... Enfin, je vais revenir en arrière. Quand j'étais en Belgique, par exemple... Tout noir était congolais, tout arabe était marocain. Donc il fallait que les non-zaïrois disent « Non, non, moi je suis burkinabé ». Parce que il n'y avait que les deux grandes communautés étrangères, non-européennes, c'était le marocain, l'arabe marocain et l'africain congolais. Quand je suis arrivé en France, le noir est devenu africain. Et l'arabe est devenu maghrébin. Et donc le monde s'est élargi. Là, j'ai rencontré un homme. Mais moi, d'Africains de tous bords, de tous les pays, et j'ai toujours été dans un milieu intellectuel de très haut niveau, littéraire, cinématographique, théâtral, de très haut niveau. Et je suis allé en Angleterre, et là, tout d'un coup, j'ai découvert le côté intellectuel engagé de l'art. Parce que là, même ce qui me paraissait très hermétique comme Derrida et bien d'autres intellectuels français, et ils étaient très 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 inclus dans la pensée anglophone de Londres à ce moment-là. Et c'était un Londres assez incroyable parce que Margaret Thatcher était chancelière, donc premier ministre, et je découvrais que dans la dureté de Margaret Thatcher, les artistes d'origine africaine ou d'afro-descendants comme on dit maintenant étaient très 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 soutenus, tous les cinéastes de ma génération ont bénéficié d'un plan d'aide financière de l'époque de Thatcher. Hein. Ils se sont installés dans le métier. Hein. Ils ont dû aussi obtenir des bourses pour aller dans les écoles de cinéma. Donc, il y avait Channel 4, la grande télévision anglaise, qui était d'ailleurs qui a produit mon premier film sur Thomas Sankara en 92. Donc, je suis allé d'abord par curiosité parce qu'il y avait un atelier de cinéma à Cambridge, aux Beaux-Arts, qui était animé par l'un des plus brillants cinéastes anglais. Et je suis allé à cet atelier et ça m'a intéressé. Et après, je me suis inscrit à un cours de cinéma, donc aux Beaux-Arts de Cambridge. Et après, les choses se sont enchaînées. J'ai rencontré des gens, j'ai rencontré Haïlé Gerima, qui est un des cinéastes les plus importants d'Afrique et éthiopien, qui enseignait à l'école de cinéma de Washington DC. Je suis allé chez lui, j'ai suivi des cours à travers lui à l'école de cinéma de Howard. Et après, mais j'étais toujours entre Paris et les États-Unis, et je suis allé à ce qu'on appelle aujourd'hui Film Academy de New York Film Academy, qui à l'époque s'appelait Broadway Film Academy, qui était un peu associatif. Maintenant, c'est devenu une grosse machine, mais qui a une très très grande réputation.
Ibale a Congo, ijali lo pangota, kashi ijali shenzela. Yahweh benisa Congo, Yahweh batela nitoko.
Cantar
mérite. Bitumba na bitumba, conflit sur conflit. Yebambo te tango la kana moko jie mon pater. Si longo na peuple. Imboa, a jalina ma koloma ne hui. Alata kanzela se apae.
Makonzi ya Congo, makambi ya Congo e. Makonzi ya Congo, makambi ya Congo e.
Denis Asongeso, Chombe Mondial, Joseph Kabila, Makonzi ya Congo, Melestina Likanisi Monene Bozoui, Yakoti Akimia na peuple. Et mon autre terre qui est Congo, cultivons la pour un avenir meilleur. Yahweh, Yahweh, béni sa peuple. Yahweh, Yahweh, battez la nuit. Ebale ya Congo, ejali lopango te, kashi ejali, ejali, se, jela.
Radio Kapi, grand témoin.
Dans Grand Témoin aujourd'hui, Jean-Marc Matouaki et Blaise Shindani Kambala reçoivent Baloufou Bakoupa Kanyinda. Il est cinéaste, écrivain, professeur et directeur général du Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale. Il s'exprime sur son parcours ainsi que l'importance stratégique de ce grand centre culturel basé à Kinshasa. Suivez à présent la deuxième partie de cette interview avec Blaise Shindani Kambala.
Bonjour monsieur le directeur général.
Bonjour.
Le commun des Congolais peut connaître quelles sont les missions assignées au centre culturel et artistique des pays de l'Afrique.
Bien, merci beaucoup, merci de m'accueillir et de me donner la parole pour échanger avec les auditeurs de Radio Okapi. Les missions principales assignées au centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale, c'est d'abord l'éducation à la culture. L'éducation à la culture, la sauvegarde du patrimoine. Qu'est-ce que c'est la sauvegarde du patrimoine? Par exemple, là, nous organisons quelque chose autour de Papa Wemba. Papa Wemba est un patrimoine musical. Et, je peux en citer d'autres formes aussi, mais le centre, qui est un lieu de souveraineté culturelle, doit affirmer la présence de notre pays dans l'orbite culturelle mondiale. Le centre doit pouvoir affirmer notre identité culturelle et aussi promouvoir nos propres récits. Vous savez, les récits ne sont pas qu'écrits. Les récits sont du théâtre, les récits sont de l'écrit, les récits sont du cinéma, les récits sont de la musique, les récits sont du vécu. Donc le centre est un lieu qui devient un creuset pour que toutes ces chapitres de notre récit national puissent se retrouver et trouver surtout du sens. Hein, c'est très important. C'est de sortir de la culture de l'immédiat, la culture festive, pour aller vers la culture de l'économie de la culture, qui suppose que derrière, il y a une création des valeurs, des revenus, et aussi une continuité dans la productivité.
Le centre étant déjà opérationnel, pouvez-vous nous dresser un bilan du premier trimestre depuis son inauguration par le chef de l'État en décembre dernier?
Vous voyez que le centre est un ouvrage magnifique. Et nous sommes très contents de paraître comme la première institution de notre pays à laquelle on demande un bilan trimestriel, à peine inauguré. Le centre ne bénéficie pour le moment d'aucun budget de l'État. Donc il n'est même pas encore inscrit au budget de l'État. Mais en 3 mois, nous avons quand même, d'abord il fallait finir le rodage. Vous savez, le centre, cet ouvrage que vous voyez, est plein de technologies. Hein, et il faut que les équipes qui sont là puissent prendre. Évidemment, nous sommes là, mon équipe et moi, nous sommes là depuis presque plus d'un an, depuis janvier 2024, et appréhender toutes les composantes techniques et technologiques du centre, ça prend du temps. Et nous avons commencé des tests. Vous savez, une salle acoustique, pour la mettre en activité, il faut faire des tests. Des tests de résonance, des tests électromagnétique, des tests sonores. Il faut tester les appareils. Et le centre, dans son ventre, est une usine. Usine d'eau, parce que le plus grand ennemi d'un ouvrage pareil, c'est le feu. Donc le centre est bourré d'un dispositif anti-incendie qui est énorme. Il faut l'appréhender, il faut le saisir et faire corps avec. Le centre a besoin d'énergie, il consomme 2 mégawatts d'électricité. Il a fallu penser l'électricité de la ville, penser le groupe électrogène et nous pensons actuellement les solaires. Donc il y a des choses qui sont encore en étude pour que le centre puisse réellement, après 3 mois, dans sa continuité, trouver sa place. Mais néanmoins, nous avons organisé des activités, nous avons organisé durant tous les mois de mars les journées congolaise de l'image de la femme africaine. Et on en a vu des grandes dames venir au centre discuter. C'est ça la culture. La culture, ce n'est pas juste un son de guitare. C'est aussi le son de la voix. C'est aussi le regard. C'est aussi la conversation citoyenne entre nous, entre citoyens congolais. Donc, tous les mois de mars, nous avons vu défiler des centaines de femmes. Les salles ont été pleines. Et des femmes qui ont retrouvé aussi, il faut aussi considérer que nous sommes encore un objet de curiosité, un objet de découverte. Donc, nous avons organisé les rencontres congolaises de la pensée panafricaine qui ont vu des éminents professeurs de nos universités échanger avec des jeunes gens et nous avons tous les dimanches projeté un film sur l'histoire de notre pays, l'histoire souvent méconnue, et nous avons aussi à ce moment-là des conversations très importantes entre le public lui-même discute de ce qu'il vient de voir. Donc voilà, nonobstant le peu de moyens, le maigre moyen que nous avons, nous mettons en place des choses. Le 15 avril dernier, avec un collectif des producteurs artistiques, nous avons organisé la Journée mondiale des arts. Il y a eu peut-être 100 ou 200 personnes de toutes les disciplines qui ont envahi les sites du centre. Donc ça, c'est aussi une activité très, très, très importante.
Monsieur le directeur général, étant donné que le centre n'a pas le droit de faire les opérations lucratives, quelle est alors votre source de financement, ne serait-ce que pour l'entretien des infrastructures ?
Normalement, c'est vrai que le centre n'a ni vocation commerciale ni lucrative. Nous n'avons aucune compétence de vénalité dans ce sens-là, croyez-moi. Maintenant, normalement, quelles sont les sources financières du centre ? C'est la dotation de l'État, le partenariat et peut-être aussi produire du revenu en interne, c'est-à-dire par des programmes. Pour le moment, nous faisons des choses gratuites, mais il faudra un moment que les guichets s'ouvrent. Hein? Donc, les sources principales, c'est un service public de l'État. Hein? Donc, c'est dans le décret de sa création qui définit ses sources. Maintenant, nous sommes dans ce qu'on peut appeler des recettes exceptionnelles. Parce que les gens, les institutions viennent vers nous pour utiliser les salles et nos espaces. Et je dis ici, et je reviens aussi à ce que vous avez dit, nous n'avons ni vocation commerciale ni lucrative. Donc, nous ne louons pas les salles. Nous les cédons pour une utilisation. Donc, nous signons des accords de partenariat quand on vient au centre. Et les coûts sont discutés. Nous accordons beaucoup de réductions. Mais nous avons annoncé des prix qui correspondent à la valeur du centre. Vous savez, les salles que nous avons, c'est des endroits très fragiles. Il faut les soigner. Il faut les désinfecter tous les jours. Vous savez, quand vous mettez 2000 personnes dans une salle, vous avez un fort pourcentage des maladies transmissibles, des bactéries. Donc, il faut désinfecter. Nous vivons dans un environnement insalubre. C'est l'environnement de la ville. Je n'invente rien. Et nous avons des emprises publiques autour de nous dans lesquelles il y a tout un pays de rats. Hein? Et les rats, Ce sont des ennemis des ouvrages comme les centres. Nous avons déjà eu une attaque massive de rats qui en sont venus ronger les câbles. Hein, et nous devons répondre à cette attaque. Donc nous devons dératiser. Hein, donc voilà, il y a des choses visibles et des choses invisibles. Mais nous savons où nous allons. Nous n'avons que 3 mois. Et nous sommes très très contents par redécevabilité qu'on nous demande des comptes. Et nous en sommes fiers. Et nous sommes peut-être la première institution qui, au bout de 3 mois, on demande avec insistance des comptes. Et nous répondons avec transparence.
Ok. Le centre englobe aussi les pays de l'Afrique centrale. Quel pourra être l'apport de ces pays-là?
Mais en fait, je pense qu'il faudrait très vite que le gouvernant enlève cette ambiguïté. L'accord de coopération sino-RDC s'intitule, c'est un accord de construction, voilà, d'un projet qui est le centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale. Si vous regardez cette composition des dénominations dans sa sémantique, vous verrez qu'il y a 2 composantes, le centre culturel et l'artistique. L'artistique, ici, c'est l'enseignement artistique qui est dévolu à l'INA. Parce que le centre est composé de 3 pôles, qui est le centre d'accueil, qui est un lieu de développement des projets et d'accueil des experts et des enseignants, des experts, des créatifs invités. Et ils sont censés, pour la plupart, soit donner de l'enseignement, soit construire des projets qui peuvent passer par les étudiants de l'INA en termes de mise en pratique et puis finir en diffusion au centre culturel. Et si vous regardez la forme architecturale vue d'en haut du centre, c'est une connexion entre ces 3 pôles. Donc l'INA et le centre culturel sont condamnés à travailler ensemble et à produire ensemble. Donc le pays d'Afrique centrale, si vous regardez l'accord sino-RDC, c'est un accord bilatéral. Donc pour le moment, moi je n'ai pas encore eu accès à quelconque annexe qui lie le centre à quelconque pays d'Afrique centrale. De mon côté, j'ai essayé d'interroger quelques pistes que je connais dans le pays d'Afrique centrale et je n'ai pas eu de réponse qui nous lie à un quelconque accord avec un pays. Je dis bien, c'est un accord bilatéral entre la Chine et la RDC. Maintenant, le gouvernant a assigné au centre culturel une mission panafricaine. Nous sommes au cœur de l'Afrique et le Congo doit jouer son rôle de grandeur dans le panafricanisme et au cœur de l'Afrique.
Quand on dit culture, on voit souvent, vu du Congolais, la musique. Qu'est-ce que le centre pourra faire pour promouvoir aussi d'autres domaines culturels?
Mais je pense que c'est le grand chantier de compréhension ou le grand chantier des conflits de sens. Quand on dit, évidemment, culture, l'opinion populaire de chez nous pense que la culture, l'artistique est musicale. Ce qui n'est pas complètement faux, mais qui est en partie biaisé. Nous disons ceci. Notre musique populaire, vous le savez bien, depuis Lucie Yenga, depuis Wendo Kolosoy ou Ado Elenga, en passant à cheval sur l'indépendance, notre musique a été là, table ronde. Notre musique a été là, accompagner les mouvements de l'indépendance. Notre musique conduit nos vies dans ses peines et dans ses douleurs. C'est une musique populaire importante, mais ce n'est pas que ça la culture. C'est une discipline. La musique est une discipline. C'est une des expressions de la culture. Hein, si nous prenons dans les disciplines artistiques, il y en a 14 actuellement à peu près. Il y a l'architecture. C'est une très grande discipline artistique. Il y a le théâtre, il y a la littérature, il y a le cinéma qu'on appelle le 7e art. Il y a la bande dessinée. Il y a maintenant le jeu vidéo. Il y a le stylisme. Il y a la cuisine. Donc, tous ces endroits-là, si vous regardez dans notre publication sur nos projets à venir, nous avons par exemple un projet qui est en préparation pour l'année prochaine qui s'appelle 450 goûts de Pondou. Bon, nous partons de la métaphore ethnologique de 450 tribus, parce qu'à vrai dire, à part cette ethnologie coloniale, le Congo ne possède pas 450 tribus. Ça, c'est un peu divisé pour mieux régner. Le Congo possède 4 grands aires culturelles assez marquées. Et puis, il y a des sous-langues. Hein, si vous prenez, par exemple, la relation entre les Tchouluba et les Kikongo, vous verrez que c'est presque la même langue. Hein. Donc, ça, c'est ça aussi notre mission, de révéler les choses. Donc, 450 goûts de Pondou. Vous savez, les ponts d'eau, si nous regardons l'histoire de notre pays, c'est notre fleuve. Oui. Ça nous réunit. Et moi, j'ai découvert en travaillant sur ces projets, les ponts d'eau de Bangwandé, les ponts d'eau Sakasaka avec de haricots, le pont d'eau avec beaucoup de poissons. Alors, c'est une façon de dire, en termes d'art culinaire, nous sommes imbattables. Parce que si on a 450 façons de faire le pont d'eau, nous avons aussi 450 façons de faire le poisson. Donc nous sommes dans une diversité, une culture énorme. Mais non, il y a aussi la musique savante. L'orchestre symphonique Kimbanguiste va avoir dans quelques jours un concert chez nous, au centre, un concert symphonique. Nous avons des chorales qui viennent. Nous avons aussi, nous travaillons actuellement sur des projets avec des plasticiens. Nous aimerons bien avoir de la statutaire dans l'espace du centre. Donc, nous travaillons avec toutes les disciplines et nous travaillons aussi en interne sur nos propres projets. Mais nous aimerons aussi recevoir des projets extérieurs que nous étudierons ensemble et nous verrons comment trouver les moyens de produire ces projets.
Yeah.
grand témoin.
Dans Grand Témoin aujourd'hui, Jean-Marc Matouaki et Blaise Shindani Kambala reçoivent Baloufou Bakoupa Kanyinda. Il est cinéaste, écrivain, professeur et directeur général du Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale. Il s'exprime sur son parcours ainsi que l'importance stratégique de ce grand centre culturel basé à Kinshasa.
L'Institut national des arts se trouve également dans l'enceinte du centre. Oui. Dans une conférence de presse, le DG de cette institution publique dit que le centre est en train d'outrepasser ses droits en s'accaparant de certaines prérogatives.
Quelle est votre réponse quant à ce?
Ben, je crois connaître ces prérogatives parce qu'on a trop entendu cette chanson. Je suis en discussion, ce qui était une discussion intelligente, jusqu'à sous peu, avec la direction de l'INA depuis février 2024. J'ai toutes les minutes de ces conversations-là existent. Et nous avons préparé l'inauguration et le centre, c'est le centre qui a offert le film de présentation de l'INA. Hein? Donc le centre a fait beaucoup d'efforts. Quand on dit centre culturel et artistique, par le décret que le crée, ça veut dire tout le site sur lequel il y a l'INA. L'INA, qui est une institution respectable, qui est là depuis 1967 et que nous respectons, a l'autonomie administrative de gestion et de pouvoir dans son campus, dans ses bâtiments, qui sont définis par un plan. Qui possède les ITPR, et il le répète. Hier encore, on répète ces mêmes choses. Et le centre culturel, donc la direction du centre culturel, a l'autorité, la responsabilité de gestion, d'entretien et d'administration du centre d'accueil. Évidemment, qu'est-ce que c'est les centres d'accueil et résidences créatives? C'est les lieux pour accueillir des experts, des enseignants venant hors de Kinshasa, qui viennent pour des missions d'enseignement avec l'INA ou avec le centre, parce que le centre aussi est un lieu de formation, et des créatifs qui viennent pour développer des projets. Donc, quand ils viennent, on les loge là-bas. Mais on loge pas quelqu'un sans calendrier. Vous en convenez bien. Que quand quelqu'un vous annonce qu'il arrive chez vous, il annonce aussi une date et vous vous préparez à l'accueillir. Pour le moment, le centre n'est pas actif. Et je veux revenir sur ces points pour bien comprendre. Il nous a été demandé pour le MINAFET, le ministère des Affaires étrangères, qui avait besoin d'une salle pour faire la capture de nouveaux passeports, des concéder un espace au ministère des Affaires étrangères. C'est ce que nous avons fait avec un accord de partenariat. Parce que j'ai dit, nous ne sommes pas des loueurs. Nous ne sommes pas de loueurs d'immobilier. Donc nous avons fait un accord de partenariat. Ça peut être un PP, public-privé, mais ça peut être aussi entre institutions. Donc nous avons fait un accord de partenariat entre institutions qui est acté, qui est connu des autorités. Donc le MINAFET installe. Mais parce que le centre est sous notre responsabilité. Nous devons l'entretenir. Nous avons une administration pour le gérer. Quand les Chinois nous ont livré le centre, ils ont livré, nous avons à peu près 46 chambres, ils ont livré des matelas sous cellophane, sous plastique. Je pense qu'on ne logerait pas quelqu'un dans une chambre sans confort, sans un minimum de confort, draps, nécessaires de toilette, tout ça, c'est important. Donc, de cet accord, nous avons tiré des moyens pour commencer à investir pour que le centre soit actif. Beaucoup de gens qui ont des projets à venir au centre, ils demandent aussi est-ce qu'on peut loger ici ou pas. Donc tout ça, ça rentre dans les responsabilités de la direction du centre. L'INA peut loger ses enseignants, je répète, moyennant un calendrier. Donc on ne tape pas à la porte de quelqu'un pour dire je vais loger quelqu'un. Non, il faut qu'on lui prépare là où il va loger. Donc l'INA peut loger les gens dans ces centres moyennant des frais d'entretien. Mais comme nous avons des frais d'entretien qui ont été payés pour les MINAFET, donc nous considérons que l'INA, si l'INA a des gens à loger, l'INA nous contacte, on regarde dans les calendriers les disponibilités qui sont là, eh bien les portes seront ouvertes. Au lieu de, ça sert à rien de faire du bruit parce que pour nous il n'y a pas conflit. Ah, peut-être qu'il y a un autre agenda, il y a une autre pensée, peut-être d'autres vénalités qui ne nous concernent pas. Concernant le petit théâtre, nous sommes, moi-même, je suis un enseignant dans une école d'art. J'ai été formé dans une école d'art de cinéma. Donc je sais qu'est-ce que c'est la pratique. Hein. Donc, les étudiants de l'INA qui sont dans l'art dramatique ont porte ouverte pour utiliser le petit théâtre pour des besoins de pédagogie et de pratique. Mais c'est long aussi un calendrier concerté. Parce que nous avons des activités et nous entretenons ces centres. Quand les étudiants viennent, il faut qu'ils trouvent un endroit propre. Et toute personne qui vient au centre, le centre est assuré. En cas d'accident, le centre est assuré. Il faut une veille d'incendie. Il y a une veille médicale. Donc tout ça, il faut un calendrier concerté. Donc il faut pas, on dit bon, on veut aujourd'hui. Non, si l'INA nous apporte un calendrier pour le pratique pédagogique, eh ben le petit théâtre sera ouvert.
Pour terminer, monsieur le directeur général, du 24 au 27 avril, le centre rend hommage à Papa Wemba dans le cadre de la commémoration du 9e anniversaire de sa mort. C'est quoi la touche particulière à cet hommage?
D'abord, Papa Wemba est un élément important de notre patrimoine culturel. Et Papa Wemba, c'est pas que le patrimoine congolais, c'est le patrimoine de la musique africaine et panafricaine. Donc, le centre ayant pour mission d'éveiller au patrimoine congolais, Papa Wemba faisant partie du patrimoine congolais, je vais peut-être vous faire encore une confidence. Nous allons avoir, sur le fronton du centre, vers le boulevard Triomphal, nous allons avoir une allée des étoiles, les Minzoto, hein, comme sur Hollywood Boulevard. Donc, Papa Wemba fait partie de notre patrimoine. Et il est décédé le 14 avril. J'ai été avec Monsieur Manda Tchebwa, le professeur Manda Tchebwa, avec le professeur Mbuya Mbalupwishi, nous avons été en 2018 présents à Addis Abeba pour défendre que la date du 24 soit inscrite dans le calendrier de l'Union africaine. Je dis bien, j'y étais avec Mbuya Mbalupwishi et Manda Tchebwa. Donc, vous comprenez l'importance que je peux accorder à Papa Wemba. Je suis allé avec Papa Wemba au FESPACO, où j'avais demandé que Papa Wemba fasse partie du jury de films long métrage. Parce que Papa Wemba, c'est aussi un acteur de cinéma. Ouais. Il n'y a pas que La vie est belle. J'ai moi-même produit un film d'un jeune cinéaste congolais qui s'appelle Michel Nsouzou en 2012, où Papa Wemba joue un rôle d'avocat. Et ça a été d'une générosité incroyable. Un coup de fil, non, je serai là, et il était là à l'heure. Donc cet homme-là, nous avons toutes les raisons de lui rendre hommage. Donc le 24, qui est ce jour anniversaire, ouais, nous ouvrons avec un film fait par un Congolais de Brazzaville sur Papa Wemba. Papa Wemba, un homme, une histoire. Nous ouvrons avec des témoignages, nous accueillerons Madame Rose, la veuve de Papa Wemba, Mama Amazon.
Amazon.
Oui. Et nous accueillerons des grands musiciens, d'autres seront en ligne, qui vont témoigner d'avoir travaillé avec lui et dans quelles conditions et qu'est-ce qu'ils en gardent comme souvenir et quel est son héritage. Ça, c'est le 24. Et nous verrons un film et puis, comme dans toutes circonstances, nous partagerons un petit verre que nous partagerons aussi avec les ancêtres. Donc, le lendemain, il y aura un autre panel, vendredi 25, il y aura un panel, on discutera aussi de Game Changer, l'héritage de Papa Wemba. Et nous verrons aussi un film. Et le samedi 28, il y aura, 26, il y aura le grand concert dans le grand théâtre de Redi Amissi, digne héritier de Papa Wemba, ouais, et l'orchestre Bana Molokai, qui est géré par Mama Amazon. Voilà, donc nous aurons ces moments-là de musique, ce moment de culture populaire festive, à l'honneur de cette grande figure emblématique de la culture musicale panafricaine, qui est Papa Wemba. Et dimanche, comme tous les dimanches au centre à 15h, il y a une programmation cinématographique, nous verrons probablement soit La vie est belle, avec le petit court-métrage Mbamba, ou un autre film qui est fait par un Congolais de France, qui retrace la vie de Papa Wemba après sa mort.
Voilà. Baloufou,
Kapumba. Et c'est gratuit, l'entrée est gratuite.
Ah, ok. Ouais. Ouais, merci pour la précision. Baloufou Bakupa Kaninda, directeur général du Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale, je vous dis merci beaucoup.
Merci beaucoup, c'est un moment agréable de pouvoir communiquer avec vos éditeurs. Je sais que Radio Okapi est écoutée partout dans le monde et surtout en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Présentation Jean-Marc Matouaki et Blaise Chindani Kambala. Coordination et réalisation Alain Hirung Mouchige. Vous pouvez réécouter, voire télécharger cette émission ainsi que plusieurs autres numéros de Grand Témoin en allant sur www.radiookapi.net, y compris également sur nos plateformes digitales. Bonne suite et programme sur la fréquence de la paix. Au revoir.